Vous écoutez
RMC.
On va parler de l'équipe de France, messieurs, puisqu'il y a un gros match France-Norvège, alors qui compte tout de même, puisqu'en cas de match nul ou de victoire, la France terminera première de son groupe. En cas de défaite, les Norvégiens passeront devant. Et on va accueillir tout de suite Fabrice Hawkins, qui est au plus près de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde.
Fabrizio Hawkins, il connaît tout.
Salut Julien, salut à tous.
Hawkins, on l'appelle.
Ça va, l'expérience se passe bien pour l'instant, Fabrice. Là, on est là depuis 12 jours. Eh oui,
c'est chaque magnifique. Chaque fois que je le vois, il est chanceux. Magnifique en tribune, il est super, il est
Julien
bien
peut en témoigner. En tout cas, c'est vrai qu'il
a
profite.
Il a trop la classe. Il connaît tout, surtout, il a trop la classe. Il parle bien, il présente bien. Il est très...
Et tu sais qu'il est juste à côté de moi dans la rédac, hein, juste à ma droite. Ouais. Mais tout en téléphone, on peut pas trop l'avoir.
Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça, il est super busy. Mais
il faut avoir les infos pour bosser. Julien, tu sais ce que c'est, Julien, dis-lui.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais à chaque fois que je le vois, il est magnifique, toujours en tribune, il est parfait.
France-Norvège, Fab, raconte-nous un peu ce qui s'est passé autour de la conférence de presse il y a quelques heures derrière nous désormais, de Guy Stéphan et de Aurélien Tchouaméni. Guy Stéphan, évidemment, parce que malheureusement Didier Deschamps a dû revenir en France pour les obsèques de sa maman. C'était quoi l'ambiance déjà autour de ce rassemblement de l'équipe de France?
D'abord, ambiance solennelle de la part de Guy Stéphan et de la part d'Aurélien Tchouaméni aussi, parce que forcément, ils sont revenus sur le drame qui a touché Didier Deschamps avec la perte de sa maman, un hommage pour sa maman, des mots aussi pour Didier Deschamps, une pensée forte pour lui qui enterre donc sa maman ce vendredi. Le même jour d'ailleurs que France-Norvège. Donc il voulait vraiment apporter ce soutien-là. D'ailleurs, il y a eu un trait d'union de fait en parlant de la rencontre et de la volonté d'aller remplir cette mission aussi pour Didier Deschamps. Et ensuite, on a basculé dans un deuxième temps de cette conférence de presse avec le match où Guy Stéphan a expliqué un petit peu comment il allait fonctionner. C'est-à-dire que il a préparé le match avec Didier Deschamps, que Didier Deschamps lui a donné plus ou moins les consignes. On a bien compris que c'était le sélectionneur de l'équipe de France qui était derrière la composition de l'équipe et que Guy Stéphan, lui, allait vraiment gérer ce match. En changeant les joueurs, en replaçant tactiquement, en fait, en faisant ce que ne peut pas faire Didier Deschamps. Et pour le coup, ils vont pas avoir de lien direct forcément pendant les 90 minutes. C'est lui qui va gérer vraiment la rencontre. Donc, il nous a expliqué cette organisation. Et puis, avec Aurélien Tchouaméni, on a forcément parlé de cette rencontre, de Erling Haaland. Peut-être qu'on va entendre tout à l'heure des mots d'Aurélien Tchouaméni. Mais en tout cas, lui, il veut absolument cette première place. Il a parlé au nom du groupe. Évidemment, le vice-capitaine qui va revenir dans une place de titulaire. Il a expliqué aussi qu'il fallait faire attention à cette équipe norvégienne qui a des talents. On parle d'Haaland, mais il y en a d'autres. Sørloth, Odegaard, il y en a vraiment d'autres. Et on a senti vraiment une envie de la part des deux hommes d'aller gagner ce match avec un turnover qui sera donc effectué par le staff des Bleus.
Ouais, tu vas nous la donner, la compo des Bleus, dans quelques secondes. Mais d'abord, on va écouter Guy Stéphan, justement, sur son rôle, bien malgré lui, d'entraîneur principal pour le match France-Norvège à cause du départ de Didier Deschamps, endeuillé donc par la perte de sa maman.
J'ai la sensation que je suis pas à ma place, là, devant vous. Ma place, elle est sur le terrain d'entraînement, en train de mettre le matériel et d'attendre que les joueurs arrivent. Il se trouve qu'on est dans une situation cruelle. Il faut assurer le troisième match. Je m'efforce avec le staff, avec les joueurs que, évidemment, je connais bien. J'échange aussi beaucoup avec eux et de mettre demain la meilleure équipe possible, de faire vivre le groupe.
Bon, un moment, Flo, évidemment, très particulier, très compliqué.
Ouais, c'est pas anodin, évidemment. Alors,
les mots sont forts, là. J'ai pas l'impression de pas être à ma place. Ouais,
que tout ce qui est de l'avant-match et toute la prépa, ça change pas finalement grand-chose jusqu'à la compo, comme le dit Fabrice. En revanche, c'est vrai que, il y a un vrai enjeu sur le banc. Parce que là, pour le coup, à un moment donné, alors même si évidemment, t'as des joueurs qui se prennent en main, t'as un capitaine, et puis Guy Stéphan a l'habitude, et il glisse aussi souvent ses ressentis à Deschamps avant que vraiment changements soient faits. Mais enfin, pour le coup, c'est quand même des situations assez rares, et voire très rares, et qui sont pas anodines dans un match qui va compter quand même, et même si c'est pas un match à élimination directe. Donc c'est un des enjeux du match aussi, quoi.
Et perdre un parent, Fabrice, je me retourne vers toi, mais là, ça peut aussi avoir des impacts sur la suite de la compétition. Alors après, Guy Stéphan et Didier Deschamps ont l'habitude de travailler ensemble, il y aura des solutions de trouver, mais est-ce que déjà on sait quand est-ce que Didier Deschamps reviendra auprès de l'équipe et à quel niveau, si on peut dire?
A priori, dans la nuit de vendredi à samedi ou samedi, c'est pas encore définitivement tranché, mais les obsèques en fait de sa maman ont lieu demain, donc vendredi, et ensuite Didier Deschamps est attendu rapidement à Boston. Avec évidemment toute l'indulgence eu égard à la situation.
En tout cas, on a vu le groupe très soudé. Il y a eu la minute de silence. Tout le monde est évidemment touché par ça.
Totalement, totalement. Tout le monde est touché parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui est très apprécié vraiment de tout le groupe. Et puis, on l'expliquait un petit peu sur RMC, c'est-à-dire que il s'est présenté devant le groupe aussi avant le déjeuner mardi pour leur expliquer un petit peu la situation, leur demander de mettre vraiment toutes les forces dans la bataille aussi pour jouer ce match contre la Norvège. Donc vous imaginez bien, le groupe il était meurtri avec lui, et les joueurs vous le voyez bien, hein, Didier Deschamps complètement abattu, touché dans sa chair. Donc voilà, il y avait des joueurs qui étaient au bord des larmes, mais très vite ils se sont parlé un petit peu. Alors ça peut faire bateau hein, de dire qu'ils se sont parlé. Ils vont dire il faut qu'on gagne pour le coach, mais dans les faits effectivement il y a eu une espèce d'empathie qui s'est créée. Et quand le coach leur a dit vraiment donner tout contre la Norvège, bah il a trouvé
face à lui un des vrais mots là, tu les écoutes vraiment. Tu vas nous donner la compo Fabrice pour ce match important mine de rien, parce que France-Norvège ça te permet de terminer premier en cas de match nul ou de victoire. D'ailleurs Aurélien Tchouaméni d'abord qui parle de cette volonté de terminer premier, parce que si tu es premier tu as un 16e de finale à New York et un 8e potentiel à Philadelphie, mais si tu termines deuxième c'est contre la Côte d'Ivoire dans le Texas. Donc Aurélien Tchouaméni préfère largement terminer premier évidemment.
Déjà, moins de voyages, ça c'est une réalité. Parce que on sait qu'en finissant deuxième du groupe, il y aura beaucoup plus de périples à faire. Mais au-delà de ça, en tant qu'équipe de France, on se doit de gagner tous les matchs. Et ça veut dire qu'on se doit de finir premier de ce groupe-là. Après, comme je l'ai dit, qu'on joue la Norvège, l'Irak ou le Sénégal. Honnêtement, demain, notre objectif principal est de gagner le match. Et on sait que si on fait les choses bien et qu'on gagne le match, on sera dans une bonne position pour la suite.
Julien, Laurence, est-ce que pour toi ça vaut le coup de s'arracher contre la Norvège, de pas faire l'impasse entre guillemets sur le match, même si ce sera pas le cas bien sûr, pour s'éviter ce voyage au Texas et rester dans le nord-est des États-Unis?
Ouais, bien sûr, c'est complètement logique, tout à fait. On l'a dit, s'ils sont premiers, ils auront leur 16e de finale ici à New York, New Jersey.
3e de groupe en plus.
Voilà, en plus on est 3e de groupe, en quart de finale, je crois que tu restes donc 8e, après 8e et quart, tu restes pareil Boston et Philadelphie aussi. Donc c'est des stades qu'ils connaissent, c'est des hôtels qu'ils connaissent, c'est des routines et des trajets qu'ils connaissent aussi, et donc ce serait l'idéal bien sûr. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'ils avaient choisi de rester à Boston, c'était dans l'optique justement de terminer premier et d'avoir aussi ce calendrier là derrière. Donc ça a du sens, même si on s'attend à quelques changements. On a parlé un petit peu tout à l'heure et puis Fab va nous donner aussi la compo probable. C'est normal aussi qu'ils fassent quelques changements, mais c'est normal que cette équipe là reste super compétitive avec notamment tes meilleurs joueurs quasiment à part Saliba.
Vas-y, bon, on va y aller tout de suite hein. Fab, donne-nous la compo probable des Français contre les Norvégiens.
Maignan dans les buts, ça bouge pas. À gauche, Théo Hernandez récupère sa place par rapport au match contre l'Irak. À droite, c'est Jules Koundé et non Malo Gusto. On pouvait s'y attendre et on en parlait il y a quelques jours. Il y avait une possibilité de voir Malo Gusto jouer ce troisième match et finalement ce sera Jules Koundé. Peut-être que le joueur de Chelsea va entrer en cours de jeu. L'axe sera composé de Dayot ou Upamecano avec donc pas William Saliba, ménagé. On sait qu'il a quelques douleurs au dos. Il y avait une possibilité de la part du staff des Bleus de choisir Maxence Lacroix ou Ibrahima Konaté. Coup dur pour le nouveau joueur du Real Madrid puisque c'est Maxence Lacroix qui devrait commencer donc dans l'axe. Au milieu du terrain, Adrien Rabiot se repose, Aurélien Tchouaméni et Manu Koné qui enchaînent devraient être alignés hein, dans un double pivot. Et ensuite les quatre de devant, ce sont les quatre mêmes que l'équipe qui a joué face au Sénégal lors du premier match de l'équipe de France. Michael Olise replacé pour le coup en numéro 10. À droite, Ousmane Dembélé. À gauche, Désiré Doué plutôt que Bradley Barcola. Et devant, celui qui va concourir pour être le meilleur buteur de ce tournoi, Kylian Mbappé.
Évidemment, la compo signée Fabrice Hawkins pour RMC. Flo, qu'est-ce qui te marque principalement dans cette équipe?
J'étais plus hypé par les infos qu'on avait hier et qui donnaient un peu plus de changements, et notamment sur les latéraux et notamment sur le latéral droit, puisque j'espérais vraiment que Malo Gusto serait titularisé à la place de Koundé, qui fait pas un bon début de Coupe du Monde. Toujours dans l'esprit, voilà, moi je suis totalement pro turnover dans cette Coupe du Monde-là, parce qu'il y a un match en plus pour concerner les gens, pour reposer des gens comme Saliba. Enfin, moi là-dessus, je suis par exemple le fait qu'il y ait Lacroix à la place de Saliba, je trouve ça tout à fait juste. Mais c'est un changement qui ne va pas changer grand-chose pour la suite de la compète. Si Saliba est au top, c'est Saliba qui jouera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les changements qui éventuellement peuvent challenger certains joueurs, comme Koné, qui garde d'ailleurs sa place. Mais finalement, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on retrouve globalement une compo proche du premier match. C'est-à-dire que devant, tu as les quatre mêmes, tu as les deux latéraux qui sont les mêmes, et tu as Lacroix, mais c'est juste pour reposer Saliba. Après, il y a Koné Tchouaméni, sachant que dans l'esprit du coach, Rabiot n'est pas menacé. Tu n'en es pas vraiment sur cet endroit-là. Moi, le seul point qui m'intéressait pour voir des joueurs challengés, enfin l'un des points, c'était les latéraux. Et moi, je me retrouve avec Théo Hernandez et Koundé, qui sont les deux latéraux du premier match et qui sont pas du tout mes latéraux préférés, loin de là, et dont je pense qu'ils font pas un début de Coupe du Monde. Donc, ma foi, on va regarder. S'ils sont très très bons, ben tant mieux. Mais je pense que, entre guillemets, dans cette rotation possible là, que qu'offraient à la fois les résultats des Bleus et cette Coupe du Monde là, je suis un peu déçu de pas avoir vu plus de rotation, de pas redonner une chance à Digne par exemple à gauche et de pas donner une chance à Malo Gusto à droite.
Digne en plus qui a porté le brassard de capitaine à la sortie de Kylian Mbappé, donc c'est vrai que ça peut aussi être bizarre de la part de Didier Deschamps et de Guy Stéphane, donc de rechanger de latéral. Fabrice, est-ce que un Koundé ou un Théo peuvent perdre leur place, peut perdre sa place pour la suite de la compétition en cas de nouvelle contre-performance?
Ouais, c'est en fait dans ta question, ce qui est intéressant, ce qui est à souligner, c'est la fin. C'est-à-dire que c'est, il faut imaginer qu'il joue mal. Sauf que le problème, c'est
oui, ça dépend ce qu'on appelle contre-performance aussi. Ouais.
Ouais, c'est-à-dire que Koundé, il a quand même beaucoup de crédit. S'il joue un troisième match de suite, pour moi, c'est parce que le coach veut le voir en confiance après deux matchs, c'est vrai, où il n'a pas forcément été à son niveau. Il compte sur lui pour la suite de la compétition. Il veut vraiment qu'il engrange un maximum de confiance. Après, pour Théo Hernandez, on sait qu'il y a toujours eu des discussions avec Lucas Digne. Le niveau, il est vraiment, il n'y a pas un grand écart en réalité entre les deux joueurs. Moi, si Théo Hernandez, il s'écroule complètement, moi, je tomberais pas des nues de voir Lucas Digne titulaire en 16e de finale. Pour moi, il y a des postes, franchement, où c'est des titulaires, mais on va parler plutôt
ouais, 50-50,
pour les remplaçants, c'est des titulaires bis aussi, vous voyez, ou des remplaçants de luxe, mais arrière gauche, ailier gauche, et pour moi, milieu avec Manu Koné, Rabiot, Tchouaméni, c'est vraiment des postes où
ça se joue à pas grand chose.
Que dans les exactement dans les échéances qui vont arriver, ça, le coach va prendre les uns ou les autres et on peut avoir des petites surprises.
Juste pour reparler du latéral droit, moi ça me choque pas tant que ça Koundé. Oui, c'est un latéral défensif, c'est pas le meilleur pour centrer. Est-ce que Malo Gusto il mérite vraiment de passer devant réellement?
Ouais, bah, alors je pense qu'il aurait mérité une chance, mais cette chance-là elle aurait dû arriver contre l'Irak, pas contre la Norvège. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Fab dans l'émission d'avant, c'est-à-dire que à un moment tu vas jouer contre Noussa qui est un très bon joueur, qui est le joueur le plus créatif de cette équipe avec Odegaard de cette équipe de Norvège, et pour moi tu mets le meilleur défenseur. J'aurais bien sûr, j'aimerais beaucoup que Malo Gusto ait sa chance, mais défensivement aujourd'hui personne peut me dire que Gusto c'est meilleur que Koundé. Même un Koundé qui est pas à son meilleur niveau, même Koundé qui est pas au top. Fab rappelait aussi un très bon point, tu peux pas non plus changer toute ta défense. Déjà que Lacroix, c'est un changement, que Théo Hernandez, même s'il retrouve sa place, ça reste un changement quand même. Et en plus, si t'avais changé Gusto à la place de Koundé, t'aurais eu trois nouveaux défenseurs.
Ce qui me gêne juste dans la stratégie, c'est que tu as challengé ton latéral gauche, mais tu donnes un totem d'immunité à ton latéral droit.
Alors parce qu'il y a moins, ouais, parce qu'il y a plus d'écart entre Koundé et Gusto.
Mais t'agaces entre là,
non, c'est moi, j'aime beaucoup Jules Koundé, mais j'ai l'impression que Deschamps a le Jules Koundé en tête de l'Euro 2024 et qu'il s'appuie sur l'expérience et que côté droit il a deux joueurs. Il a non seulement Malo Gusto, mais il a même Zaïre Emery qui éventuellement, évidemment, qui part encore de plus loin par rapport à l'expérience ou à la non-expérience en équipe de France A. Mais c'est ça qui me gêne. Moi, je pense que Deschamps a souvent eu la capacité. On a souvent dit qu'il était conservateur, alors qu'en fait, il a souvent aussi changé ses équipes. Il a pas hésité. Je rappelle toujours l'exemple de 2018 avec les deux latéraux. Donc moi, je souhaite tout le meilleur à Koundé. Si Koundé se réveille, qu'il nous fait un très bon match, qu'il prend sa place du titulaire et qu'il la mérite, il y a pas de problème. Je dis juste que moi depuis le début ce que je vois, c'est que là je suis assez d'accord avec Julien, c'est pas tant défensivement effectivement malheureusement qu'on a des gars qui peuvent faire la diff, même si à mon avis Zaïre Emery pourrait faire la différence là-dessus, ouais. Sur le plan défensif d'ailleurs pur, mais c'est dans l'intelligence de jeu, pourtant c'est un joueur intelligent, mais dans la connexion avec Dembélé sur le couloir droit ou dans le couloir, je ne vois pas la plus-value.
Ouais, non, mais j'entends ce que tu me dis, sauf qu'il y a une considération tactique très importante pour moi. Surtout à partir de ce moment-là, donc la Norvège, c'est finalement comme un match ça sera un match de poule, mais c'est du niveau d'un match que tu vas avoir en 16e, 8e, etc., etc. Deux latéraux offensifs comme Théo Hernandez et Malo Gusto, c'est pas possible. Je pense que dans l'esprit de Deschamps, encore moins, lui qui est très conservateur, pour moi aussi, ce serait bien trop offensif, si tu veux, alors que là, t'as un Koundé qui est un défenseur central finalement qu'on a mis à droite, et à gauche,
T'as beaucoup plus de liberté pour Théo Hernandez d'aller vers l'avant et d'être le latéral gauche offensif qu'il est d'ailleurs. Et à mon avis, ce serait déséquilibré d'avoir Elui et Gusteau dans le même match, encore plus contre une équipe comme la Norvège.
Julien n'a pas tort parce que très franchement, cette équipe de la Norvège, je pense qu'on la sous-estime un petit peu.
Ah, mais on va parler des forces en puissance côté norvégien. Effectivement, c'est une énorme équipe.
Et il faudra des défenseurs et notamment Jules Koundé. C'est pour ça que je trouve pas ça incohérent en fait de garder une espèce d'ossature, même si on a déjà des changements avec Maxence Lacroix. Et c'est pour ça aussi que je comprends peut-être dans une forme de mesure la titularisation de Jules Koundé.
Avant de te libérer, Fab, un dernier petit mot sur Ryan Cherki qui a eu deux entrées en jeu. Est-ce qu'on peut utiliser le terme compliqué? Et Doué est titulaire, serait titulaire demain par Ryan Cherki.
Oui, après c'est factuel. Hein. Il a eu une entrée en jeu qui était un petit peu compliquée effectivement contre l'Irak, contre l'Irlande du Nord aussi en amical. C'était loin de ce qu'on attend d'un talent comme Ryan Cherki, parce qu'encore une fois, on le juge par rapport à ce qu'il nous a déjà démontré, par rapport à son potentiel et donc par rapport à ce que le sélectionneur attend de lui. Et c'est vrai que Ryan Cherki, il n'a pas donné toutes les garanties pour postuler une place de titulaire demain soir contre la Norvège. Moi, je suis pas très surpris, très honnêtement, de le voir remplaçant. Hein. Je pense même que la titularisation s'est joué entre Désiré Doué une nouvelle fois et Bradley Barcola, d'autant plus qu'il est dans un registre aussi où là où peut-être il est amené à briller, en tout cas là où il est vraiment là où il peut casser la baraque, c'est dans ce rôle de numéro 10 qui est alloué à Michael Olise. Donc c'est pas évident pour lui, et quand il va rentrer, je pense qu'il va rentrer contre la Norvège, faut vraiment qu'il soit bon pour se mettre dans les dispositions de premier, deuxième, troisième entrant en jeu, parce que si d'aventure demain il rentre et que c'est encore moyen, risque de pas beaucoup jouer.
Ouais, ben voilà, il y aura peut-être d'autres joueurs qui peuvent jouer à sa place. Ouais, t'as tout à fait raison. Je pense que lui, autant Maxence Lacroix a grimpé dans la hiérarchie à son poste, autant lui, il a régressé un petit peu.
Tu penses?
Parce qu'on, dans la hiérarchie, dans la tête de Deschamps, je pense que les entrées, là, ça lui a pas servi.
Après, ça reste un joueur top niveau qui, sur des petits espaces, sur les 5-10 dernières minutes, si jamais tu as besoin de ce profil technique-là, tu peux toujours le faire entrer. Mais là, on parlait dans une optique de jouer 40, 50, 60 minutes.
C'est ça.
Merci beaucoup Fab, tu peux aller te reposer et préparer tranquillement ce Norvège-France. 21h heure française, salut, ce vendredi 15h ici sur la côte est des États-Unis. Et plus globalement, Flo, de toute façon, ce Norvège-France, Erling Haaland, Antonio Nusa, Martin Odegaard, Alexander Sørloth, même Sander Berge qui joue à Fulham, qui est un très bon joueur également. Alors Julian Ryerson est sorti blessé contre le Sénégal, mais aussi c'est le deuxième meilleur passeur de Bundesliga derrière Michael Olise. C'est la plus belle génération de joueurs norvégiens. Simplement, là, en deux mots, c'est un match excitant de base, même si c'est le troisième match de poule.
Comment ?
Ils vont faire tourner apparemment.
Oui, ils vont faire. C'est ça qui est intéressant aussi, ce sera de voir dans quelle mesure eux ils font tourner. Mais peu importe. Après tout, comme le disait Julien, c'est effectivement l'un des vrais matchs là qui arrive. Et d'ailleurs, tu le vois dans la compo de Deschamps. Enfin, je dis Deschamps, Stéphane. Tu le vois dans la compo, c'est-à-dire qu'il se dit pas, je fais tourner, peu importe quelque part. Si on fait premier ou deuxième, tu vois que comme il y a un adversaire costaud en face, t'as pas envie de lâcher l'affaire. Après, sur la Norvège, c'est pareil, un peu comme pour les Pays-Bas, je dirais. Milieu, attaque, moi je suis je peux être inquiet même pour la France.
Ah bah oui.
Là, on attend le challenge.
Haaland, il est dans la forme de sa
vie. Koné, Tchouaméni au milieu, et puis la défense dont on vient de parler, là pour le coup, effectivement, elle va être challengée, donc c'est top. Avec Sørloth, Nusa et Haaland devant, là il y a du lourd. Après, c'est pareil, c'est derrière que ça peut être plus compliqué pour eux, et nous, on est très fort offensivement. Ah. Donc c'est vrai que cette opposition, on va dire là, est vraiment hyper excitante. Mais je dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement de voir comment tu gères, y compris pour les joueurs offensifs, puisqu'en gros on va retrouver et Dembélé et Olise et Mbappé a priori, et même Doué. Donc en gros le quatuor du début de la première journée, c'est-à-dire d'un gros match aussi qu'on estimait gros contre le Sénégal, c'est de voir effectivement comment toute cette mayonnaise là qui est en train de prendre en disant que Dembélé accepte et est en train de reprendre son côté droit en main, c'est aussi ça qu'on va voir contre une défense qui va sans doute elle être aussi en souffrance. Donc moi j'ai envie de voir ça, de voir comment on va dire l'animation offensive française va faire souffrir la Norvège, et puis derrière effectivement de voir le challenge que à nos défenseurs, à Koundé et compagnie, ils vont la pression qu'ils vont avoir, c'est beaucoup plus fort que tout ce qu'ils ont connu là pour le coup, y compris contre le Sénégal.
Ah, largement. D'ailleurs un jeune défenseur, Torbjørn Eggem, qui est devenu un peu titulaire sur les derniers mois à la place de Léo Stigard dans cette défense norvégienne et nous dit à quel point il est en kiff d'être là tout simplement à la Coupe du Monde et de jouer contre l'équipe de France.
C'est une sorte de rêve d'être là. On voulait gagner ces deux matchs et avoir cette finale. La France va être un match cool. C'est parfait pour le moment, donc on est excités.
Julien, est-ce qu'elle te fait peur cette équipe norvégienne quand tu te places côté français? On a vu, je sais pas si t'as vu les matchs hein, contre le Sénégal et l'Irak, mais ouais. Erling Haaland, il est dans la forme de sa vie.
Ouais, il est dans la forme de sa vie. Alors,
tellement
un
vite.
Peu déçu s'il était remplaçant ou s'il entrait simplement en jeu ou même s'il jouait qu'une seule heure, parce qu'effectivement le Haaland contre Mbappé, c'est super kiffant. On a envie tous de voir ça. On a déjà vu ça en Ligue des Champions entre City et le Real Madrid, notamment sur les deux dernières saisons. Donc j'ai envie de voir ça. Mais oui, ils sont dangereux. C'est une équipe qui est si Odegaard joue à son meilleur niveau, qui est compliqué quand eux attaquent, de la façon dont ils attaquent. Sorloth à droite, je suis pas trop convaincu par
pas un grand début de Coupe du Monde. Hein.
Non, et puis en plus.
Mais t'as raison, c'est son positionnement qui lui va pas.
C'était vouloir le faire jouer.
La place est prise dans l'axe.
Ouais, un petit peu ça. Donc après, soit t'aurais pu trouver à la place de Sol Bakken une façon de les faire jouer tous les deux dans l'axe avec, mais dans ce cas-là tu te privais de Noussa. Donc là il a fait un système qui est un peu bancal, je trouve, où tu mets finalement et Noussa et Haaland et Odegaard et Sorloth pour laisser personne sur le banc. Donc on verra comment on va ce que ça va donner dans un match de ce niveau-là, mais oui, c'est sur le papier en tout cas très fort, notamment comme le disait Flo en phase offensive.
En fait c'est marrant parce que je pense que le déséquilibre dont nous on a parlé par rapport aux quatre offensifs français, il existe chez les Norvégiens avec ces quatre offensifs là, et je pense qu'il peut faire plus mal à la Norvège pour le coup que ça nous fait. À la France, parce que je pense effectivement que en fait Sorloth pourrait presque être sur le banc si tu veux dans cette compo pour avoir une compo plus équilibrée. Alors c'est très bien, tant mieux si c'est le cas, et je te dis on va sans doute voir quelque chose d'intéressant pour nous, mais c'est la seule inquiétude que j'aurais pour la Norvège. Pour le reste, j'avoue que là évidemment la force offensive et puis même l'impact mental, là tu joues à Land, par exemple Maxence Lacroix qui a moins d'expérience et moins d'années, même s'il s'est jamais montré impressionné depuis qu'il est entré, il a fait le job très très bien avec les Bleus, bon bah voilà, sacré challenge. T'es en Coupe du Monde, tu rentres pour ton premier match et tu vas te manger le monstre.
Et tu l'as vu courir ou pas pendant cette Coupe du Monde?
Je l'ai vu.
Les défenseurs, les gardiens.
Je sais plus qu'il y avait un défenseur. On avait dit le gardien avait pris peur. Quoi. Il avait vu arriver une sorte de monster sur lui.
C'est l'impression que c'est l'Irak. Il marque contre l'Irak. C'est lui qui va presser.
Et contre le Sénégal, il met un poteau. Finalement, il n'arrive pas à recadrer sa frappe. Mais pareil, il pique le ballon dans les pieds de Mendy.
Alors, je ne veux pas porter l'œil sur Maxence Lacroix, mais le seul match. Donc, Crystal Palace a joué deux fois contre City cette saison en championnat. Un match où Haaland ne jouait pas. L'autre match, ils ont pris 3-0 Palace et Haaland a mis deux.
Non mais déjà, tu vois, nous on a
juste Kylian Mbappé, je pose pas là, mais bon, voilà.
Non mais t'imagines, on a Kylian Mbappé qui a marqué 60 buts en 100 sélections, on est déjà ébahi par ce qu'il fait. Haaland, c'est 59 buts en 52 sélections. C'est mieux que Gerd Müller, c'est une moyenne de 1,12 buts par match en sélection. Il a marqué 16 buts en 8 matchs de qualif pour la Coupe du Monde.
Statistiquement, ça veut dire que demain il est sûr de marquer.
Et il marque 2 buts par match.
Vraiment, ouais.
Il
a jamais joué de Coupe du Monde avant, donc c'est aussi.
Il a marqué. Ah, et là, il a marqué 4 buts pour ces deux premiers matchs.
Oui, mais tu vois, avant celle-là, c'était des buts qui marquaient en élimination contre des équipes qui étaient aussi plus faibles que la Norvège. Oui. Mais oui, ça reste un finisseur incroyable.
On va écouter son papa, Alf Inge Haaland. Je l'ai vu il y a quelques jours sur le bord du terrain, juste avant Norvège-Sénégal, et il a parlé du duel attendu justement Mbappé-Haaland.
Oui, absolument. Je pense que c'est le cas. Ils s'opposent déjà depuis longtemps. Je pense qu'ils aiment ce challenge et que cela les motive l'un et l'autre. Si l'un marque, l'autre veut aussi marquer. Kylian est un joueur fantastique. Erling est aussi en train de devenir un très grand joueur. C'est un duel qui sera très intéressant pour l'avenir.
Ouais, à chaque fois on dit pour le futur, est-ce que Mbappé Haaland c'est pas encore Messi Ronaldo en fait. Pour l'instant ils sont assez éloignés, ils sont pas dans le même championnat, mais c'est dommage parce qu'ils ont des stats qui sont les meilleurs d'Europe.
Ouais, alors après je pense qu'à un moment oui ça va être le duel.
Et qui est le meilleur alors pour toi, voilà. Tout simplement.
Moi je pense que Kylian reste le plus complet, quoi qu'il arrive. Si on parle que de football dans son ensemble, techniquement, tactiquement, même en termes de QI football. Je pense que Kylian est beaucoup plus complet et qu'il peut faire plein de choses. Kylian pourrait jouer en 10 derrière Haaland, par exemple. Haaland ne peut pas jouer en 10. Haaland a quand même des lacunes encore techniques un petit peu dans ses contrôles de balles, dans son jeu de haut au but, que Kylian n'a pas forcément non plus. Après, devant le but...
Moi, je te dirais en synthèse que... Après, je te laisse continuer que Kylian est un meilleur joueur et Haaland est un meilleur neuf.
Eh oui. Ce qu'on disait, il a moins de passes décisives, largement moins de passes décisives à Haaland, mais il est là pour finir.
Sûrement. Ouais, c'est très bien résumé aussi. Après, pour Alfie Haaland, il vit sa meilleure vie. De son fils maintenant, c'est peut-être encore plus beau que ça.
Il était détendu.
Là, c'est quand même autre chose.
Mais non, mais mine de rien, chaque année il progresse, même si là il a mis que 27 buts en première ligue, ouais, ce qui pour lui est presque un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'année après année, t'as l'impression qu'il avale la côte sans problème,
ouais,
quoi.
Ouais,
il a la Coupe du Monde, on s'est dit peut-être qu'il va se cracher à la Coupe du Monde. Il y en a, il supporte pas la pression. Oui. Il arrive, 2 matchs, 4 buts.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors on verra demain contre une opposition comme l'équipe de France. Et puis après, pour les 16e de finale, peu importe qui ils joueront. Donc quand le niveau va s'élever aussi de cette Coupe du Monde, on va voir lui ce qu'il peut faire. Parce que rappelle-toi par exemple du match de prépa contre le Maroc, où il touche pas le ballon quasiment, il a 4 touches de balle sur la première heure, quelque chose comme ça, il est à la rue, et la Norvège est à la rue complètement contre le Maroc. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais oui, il a 18 mois de moins que Kylian, puisqu'il aura son anniversaire là bientôt, il aura 26 ans, Kylian a 27 ans, aura 28 ans
en décembre.
Donc ils ont 18 mois d'écart. Donc ça reste encore un petit peu comme d'ailleurs Messi et Ronaldo, et ça va rester bien sûr le duel qu'on attendra maintenant dans les saisons à venir.
Allant d'Mbappé, France-Norvège ce vendredi 21h heure française, 15h ici sur la côte est des États-Unis.